Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 9 janvier, une émission de Cinérama sans présence féminine. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et Marine s'est cachée, elle a pris l'avion, on la retrouvera dans une quinzaine de jours. Elle nous ramènera peut-être un reportage sur le cinéma au Laos et puis au Vietnam. Et sinon, eh bien, on ne va pas parler non plus de Russie avec Depardieu, on va éviter.
Bah oui.
Mais on va parler de Frodon Sakai qui est dans un nouveau rôle, dans
oui.
Un film bien étrange.
Elijah Wood dans Maniac.
Et puis, on aura aussi bien un gros plan quand même avec Laurent Cantet qui était là il y a, c'était en 2012. Il présentait Foxfire qui est sorti déjà la semaine dernière. Donc Foxfire, confession d'un gang de filles. On écoutera une large interview de ce réalisateur que j'apprécie particulièrement. C'est Cinérama.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Donc, avant de donner mon avis sur le remake de Maniac, j'aimerais revenir sur l'original, réalisé d'ailleurs au début des années 80 par William Lustig. Donc, un petit voyage dans le temps s'impose. Au début des années 80, la série B américaine va connaître une petite période faste grâce à l'émergence d'une série de cinéastes radicaux, tels que Abel Ferrara pour le plus connu, mais aussi Jim Glickenhaus, Lee Wistig, Gary Sharman, Frank Hennenlotter et, bien sûr, William Lustig. Lustig, c'est un peu l'archétype de l'artisan ayant donné ses lettres de noblesse à une forme de série B agressive, viscérale et très urbaine. Après deux pornos confidentiels, oui, il a bien commencé dans le porno, il frappe un grand coup avec Maniac, son premier film traditionnel, mais aussi son meilleur. Auréolé donc d'une réputation sulfureuse parfaitement méritée, cette œuvre dérangeante et malsaine faisait partie de ces films qui enterrent mon adolescence avant même de les avoir vus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la collection René Château, les films que vous ne verrez jamais à la télé. Mmh. Je crois qu'il y avait Zombie, il y avait La Chasse Sanglante, enfin, il y en avait quelques-uns comme ça. Bon, bien sûr, ce slogan est aujourd'hui complètement galvaudé, mais à l'époque, ça produisait son petit effet. Donc le film, démarrant son film d'ailleurs par un clin d'œil aux Dents de la Mer, Maniac est loin du slasher traditionnel, il s'agit bien d'un des films les plus glauques et sanglants jamais réalisés. La caméra Lustig colle au basque de Frank Zito, un déséquilibré mental, hanté par la présence-absence d'une mère à l'origine d'un trauma initial. Ce personnage, suintant l'horreur, incarné par un Joe Spinell criant de vérité, est un des psychopathes les plus effrayants de l'histoire du cinéma. Tourné dans l'urgence avec peut-être un budget, je pense, inférieur à $1 million, Maniac dresse aussi le portrait cru et excessif de la jungle new-yorkaise, avec ses ruelles anxiogènes, son métro toujours désert, ses prostituées qui déambulent sans but.
Non,
c'est vrai. Si, elles ont toujours un but, mais bon.
Généralement.
Bref, un grand moment de rigolade assurée. C'est un pur film d'horreur déviant. Le film de Lustig s'inspire aussi bien des maîtres du film noir américain tels qu'Aldrich, Fuller et Siegel que de l'esthétique baroque du cinéma de genre italien, Mario Bava en tête. Notamment pour toute l'explosion de couleurs et l'utilisation des décors intérieurs à base de mannequins. Mais qu'en est-il du remake ?
Et sinon ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes un artiste ?
Je sais pas vraiment si on peut dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi aussi, je te vois. J'ai une surprise pour toi.
S'il vous plaît !
Ne crie pas, s'il te plaît. Tu es sublime.
Elles sont incroyables. Je les adore.
Parfois, je pense qu'elles ont plus de personnalité que la plupart des gens.
Et qu'est-ce qu'elles pensent de ton travail, ta petite amie ?
J'ai pas de petite amie.
Tu te sens jamais seule?
C'est pour ça que je t'appelle.
Anna et vous, vous vous êtes bien trouvés.
Tu sais, les cheveux, c'est la seule partie du corps qui ne meurt jamais. Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Ils ne pourront jamais comprendre. Tant que vous garderez le secret. Mais si vous n'y arrivez pas, vous finirez seul. Vous m'entendez? Tout autant que vous êtes. Seul.
Que vaut en fait ce remake réalisé par Franck Calfoun, mais hautement supervisé par Alexandre Aja et Grégory Levasseur, qui avaient fait auparavant tous les deux La Colline à des yeux et Piranha, donc des spécialistes des remakes. Donc un maniaque tout neuf, tout propre, avec Elijah Wood et produit en partie par Thomas Langman. Eh bien, sur le papier, ça fait un peu peur, d'autant que je pense intimement que l'original se suffit à lui-même et ne peut être dépassé. Alors le débat est clos dans... Pas tout à fait, le résultat est au final plutôt surprenant. Loin des remarques inutiles et purement mercantiles de quelques classiques des années 70-80, tels que Les Griffes de la Nuit, Vendredi 13 ou Halloween, le maniaque de Calfoun ne sent à aucun moment le produit opportuniste. On sent un véritable respect pour l'original et une compréhension de l'univers déviant de William Lustig. Le script, plutôt fidèle à l'original, à 2-3 trahisons près, est entièrement centré autour de la figure mythique de Frank Zito. Pour rappel, Zito, traumatisé par une mère abusive, est un tueur en série qui scalpe les femmes afin de les habiller, afin d'habiller des mannequins. Jusqu'au jour où il rencontre Anna, jeune fille, dont il semble tomber plus ou moins amoureux. Mais les auteurs radicalisent encore davantage le concept original. Le film est presque entièrement tourné en caméra subjective. Elijah Wood, incarnant un Zito plus frêle et juvénile que l'original, est à 95% hors champ. Pour ne pas laisser totalement sur le carreau le comédien, Calfoun joue beaucoup sur des effets de miroir, des reflets divers à travers les vitres, les armes blanches. La mise en scène, assez virtuose, tout en plan séquence savamment orchestré, parvient même à distiller une atmosphère oppressante. Les scènes de meurtre, très éprouvantes, bénéficie d'effets spéciaux remarquables, rendant un bel hommage au travail qu'avait réalisé à l'époque Tom Savini. Calfoun et Aja rendent supportables les exactions de Zito grâce à une esthétique clinquante, proche parfois des giallos tardifs d'Argento, accentuée par l'excellente bande-son disco-pop de Rob, sous influence Goblins. Mais ce dispositif, à mon avis, a aussi ses limites. Il demeure, à mon sens, une fausse bonne idée dans la mesure où le film produit l'inverse de l'effet voulu. En ne filmant pas frontalement le psychopathe comme dans les très perturbants Claire Cheven ou Schizophrenia, par exemple, film dont j'ai parlé récemment, les auteurs ne parviennent jamais à faire exister réellement le personnage. Il reste une entité abstraite à laquelle on ne peut s'identifier, car on ne le voit jamais. En reprenant le principe en fait, d'un jeu vidéo, mais sans l'interactivité, il passe à côté des intentions initiales, notamment faire ressentir le quotidien d'un déséquilibré mental, vivre de l'intérieur sa démence. Maniac reste un brillant exercice de style, souvent radical et anti-commercial, mais quelque peu opaque et désincarné pour atteindre le niveau de son modèle. Et puis là, il n'y a pas photo, Joss Pinel était si impressionnant que la simple idée de trouver un remplaçant a dû être un véritable casse-tête pour les auteurs du remake. D'où l'idée séduisante à la base, mais frustrante de la caméra subjective. Bon, ne boudons pas notre plaisir, enfin pour ceux que ce genre de film procure une certaine jouissance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde quand même.
Non.
Ce Maniac 2013 est à mon sens l'un des meilleurs remakes réalisés ces dernières années dans le cadre évidemment du film d'horreur. Le film est traversé par un esprit transgressif et borderline que n'aurait pas renié Lustig. D'ailleurs, il est coproducteur du film et semble plutôt satisfait à en croire ses interventions. Je crois même que sa boîte d'édition DVD Blu-ray, Blue Underground, ont participé au financement du film. Voilà.
Donc, film interdit au moins de 16 ans,
interdit au moins de 16 ans, oui, en toute logique.
Il y avait relâche à la censure ce jour-là.
Et Maniac, l'original, était interdit au moins de 18 ans. Et il est disponible d'ailleurs en DVD chez Opening, chez un éditeur français, et en Blu-ray en import chez Blue Underground, qui est donc la boîte de Lustig lui-même.
D'accord. Donc oui, donc film un peu violent. Alors moi je l'ai vu, il se trouve, je l'ai vu avec toi. Moi c'est l'histoire bon qui est très très classique,
c'est très bateau.
Plan. Ouais. Ouais, voilà. Après la caméra subjective, moi ça m'a pas trop dérangé mine de rien, parce que voilà, c'est un peu l'exercice qui veut ça. Et puis il trouve toujours un moyen, le réalisateur, de nous montrer Elijah Wood.
Ah oui, voilà, c'est miroirs, très brillant. En fait.
Voilà, enfin c'est assez habile, je trouve. Après, il y a quelques tics de mise en scène ou des petits effets, enfin que j'ai moins appréciés. C'est notamment quand il a mal de tête, parce que c'est quelqu'un d'assez torturé qui a mal de tête. Et je trouvais que le mal de tête, notamment dans un film
le restaurant,
comme
par exemple, c'est là où il déforme un peu les visages, tout ça.
Oui, enfin voilà, oui, ouais,
c'est un peu trop.
Voilà, mais dans Pi de Darren Aronofsky, je trouvais que le mal de tête était juste par le montage, était montré par le montage et c'était beaucoup plus intéressant. Donc sinon, c'est un film très violent. Moi, pour ma part, ce sera peut-être le film le plus violent que j'aurais vu en 2013. J'en verrai pas d'autres.
Ah, oh, c'est pas dit, hein.
Merci Manu pour cette belle séance. Donc voilà, Maniac est encore sur les écrans.
Il passe pendant un petit moment, je pense.
C'est Cinérama qui continue.
Cinérama.
Moi, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Gros plan de cette émission, donc avec Foxfire, confession d'un gang de filles. Nous sommes en 1955 dans un quartier populaire d'une petite ville des USA où une bande d'ados crée une société secrète appelée Foxfire. Il s'agit de s'opposer à l'ordre établi et de se venger des brimades qu'elles subissent en tant que femmes. À la tête du petit mouvement Legs, fille étonnante, rebelle, énergique, qui aimante les autres filles. Projet de communauté, utopie du bonheur à plusieurs, Kanté filme autant l'adolescence que la complexité de faire aboutir des revendications et le frottement des idées avec la réalité. La mise en scène privilégie le point de vue des filles. Nous sommes comme en immersion quasi documentaire. Point important, comme pour Entre les murs, les comédiennes ne sont pas professionnelles et le même procédé de tournage à utiliser, c'est-à-dire que Kanté filme une scène dans la continuité, évitant les champs contre champs. Donc on filme une scène, on le prend d'un certain point de vue, on filme l'autre point de vue, donc on refait la scène. Donc là, c'est pas du tout ce principe qui est utilisé. Donc pas de champ contre champ, donc il n'y a pas de coupe. Et puis donc on conserve l'énergie d'une scène et c'est un procédé qui est bien visible à l'écran. On va écouter Laurent Kanté, donc, qui était là en 2012 dans les bureaux du Ciné Diagonal.
C'est une pratique que j'aime bien, quoi. Aller comme ça, m'immerger dans une culture, mais dans un milieu aussi, parce que l'école, finalement, c'était un peu la même chose. Ouais. J'avais eu cette envie de m'y plonger, de comprendre l'ambiance, de comprendre les règles qui la régissent, quoi. Là, c'est un peu la même chose, sauf que là, évidemment, on est hors les murs, qu'on travaille aussi sur une image préexistante d'un lieu. Et c'est vrai que les années 50 aux États-Unis, le cinéma les ont beaucoup montrés, beaucoup fabriqués, même, parce que je pense qu'il y a une image de cette période qui a été totalement fabriquée par le cinéma, qui en a donné une image presque mythologique. Et justement, alors là, je pense que la distance de l'étranger fait que je pense avoir un tout petit peu plus de recul qu'un Américain pour montrer ce moment-là, quoi, de leur histoire.
What's your problem, you filthy pervert?
March 16, 1955, a true blood sisterhood came to be born. Foxfire, a true outlaw gang.
Tout est parti du bouquin, quoi, du livre de Joyce Carol Oates, que j'ai lu un jour sans arrière-pensée. Et puis très rapidement, d'abord des images sont apparues. Ces images, elles étaient américaines, donc j'avais du mal à... J'ai essayé de transposer le film en France pour des questions même de facilité de production, de légitimité aussi. Enfin, et j'y arrivais pas, parce que les espaces que j'avais vus en lisant ne coïncidaient plus, parce que d'abord aussi un certain nombre de facteurs... indispensable à l'histoire ne pouvait pas fonctionner en France, ne serait-ce que la liberté dont jouissent ces gamines, aller à 15 ans acheter la voiture parce qu'on a un peu d'argent dans la poche et le faire sans voilà, sans que personne ne s'en inquiète, s'installer seul dans cette ferme. Alors ça, bon, je pense que ce n'était pas possible en France, ça l'est encore moins aujourd'hui, d'où aussi l'importance pour moi du décalage dans le temps. Je pense que c'est un film qui raconte une histoire d'une époque où le contrôle social sur les jeunes était beaucoup moins fort qu'aujourd'hui. Enfin, moi, quand je compare mon enfance ou ma jeunesse avec celle que j'autorise à mes propres enfants, c'est vrai qu'il y a un fossé et que j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus libre que ce que je leur autorise à être.
Possession of a concealed weapon.
All of you, fuck off.
Disorderly conduct. Driving without a license.
Moi, ce qui m'intéressait là dans cette histoire-là, c'était quand même de montrer une espèce de résonance des luttes et des oppressions. C'est-à-dire se dire que ce père Thériault décrit une réalité du début du XXe siècle qui est encore malheureusement d'actualité en 1955 quand le film se déroule. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les résonances que ça a dans la période actuelle. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que beaucoup des choses dont on parle dans le film pourraient être presque dites à l'identique aujourd'hui. L'oppression des femmes, les laisser pour compte du rêve comme ça de bonheur universel dans lequel on essaye de nous faire vivre, encore que c'est de moins en moins possible. Voilà, donc il y avait cette espèce de pérennité des luttes qui m'intéressait. Et puis, ce qui me plaisait aussi, c'était de me dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait encore avoir... D'abord, le communisme en point de mire, que le communisme pouvait encore être un idéal pour lequel on avait envie de vivre, ce qui, je pense, aujourd'hui n'est plus tout à fait envisageable, en tous les cas pas en ces termes. Se dire aussi que finalement, les outils de compréhension du monde que donnait ce père Thériault à ces jeunes filles sont peut-être pas si inopérants aujourd'hui qu'on le voudrait, quoi.
One day after the last roll of the dice, we'll wake up as if from a dream and we will say, yes, I was happy then. I was happy then.
Et sans lui, d'ailleurs, sans le père Thériault, finalement, peut-être qu'il manquerait quelque chose à Foxfire, enfin, à ce mouvement.
Moi, si j'aime bien filmer l'adolescence, et c'est vrai que là, cette envie de faire ce film est née, je pense, du plaisir que j'avais eu à filmer entre les murs, à filmer cette énergie, comme ça, à l'œuvre dans la classe. Là, j'avais envie de retrouver ça. Et ce qui me plaît dans l'adolescence, c'est cette énergie qui fonce vers... pour essayer de trouver une direction, quoi. Moi, j'aime bien voir une conscience politique en formation. Et j'aime bien filmer ce moment où, finalement, les concepts ne sont pas encore là, qu'on n'a pas justement les outils nécessaires pour exprimer ce à quoi on aspire, mais qu'on l'expérimente, qu'on essaye. Et puis ça marche pas, mais si ça marche pas, on va voir ailleurs. Voilà, c'est toute cette période d'indécision et de recherche qui me plaît à filmer, quoi. Alors c'est vrai que Thériault va donner quelques outils à l'ex qui va les transmettre aux autres. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que par moments, on sent qu'elle rajoute une espèce de complexité au discours de Thériault. C'est-à-dire qu'elle le dit clairement sur le toit, ok, Thériault dit ça, mais je pense que c'est même plus compliqué que ça. Et on voit aussi comment à partir de quelques éléments qu'on va apprendre, comme ça, quelques phrases, quelques mots d'ordre qu'elles vont saisir dans le discours de Thériault, elles vont se constituer une trajectoire.
I sentence you to 5 months at Red Bank Correctional Institute for Girls.
Moi, ce qui me plaît, c'est que le politique, parfois, il s'incarne, quoi. Enfin, il se vit. Et je pense que l'expérience communautaire de la ferme, et même l'expérience du groupe, l'expérience de l'union parfaite qu'elle cherche, c'est une espèce d'utopie à laquelle, finalement, elles vont toutes croire, quoi, jusqu'à aller un peu trop loin. Mais c'est là aussi que je pense que je rejoins des thèmes qui, moi, me sont chers habituellement dans mes films, qui est justement comment l'utopie, se frottant comme ça à la violence du réel, va péricliter et va donner lieu à des éclatements ou à même à des choses qui ne sont pas... Enfin, là, c'est le terrorisme, quoi, qu'elle débouche sur du terrorisme. Ce terrorisme, pour moi, il n'est pas la conséquence du groupe et de l'utopie. Il en est l'échec, quoi.
What do you count on doing when you're no longer here?
All I know is I will never let another person be in control of my own life.
Oui, non, je pense qu'effectivement, le personnage de Legs a une maturité politique plus grande que celle de ses copines. Je mettrais à part peut-être Maddie, quand même, qui en dit moins, certainement, qui l'affiche moins, mais qui a une intelligence des choses assez grande aussi.
The problem is the communist. It is destroying the foundations of our society. It is like a cancer.
Moi, je voudrais revenir sur le discours justement anticommuniste et anti et terrifiant de réactionnaire de Kellogg, donc du grand bourgeois chez qui elles sont invitées. J'avais peur, comme ça, en l'écrivant et en adaptant le dialogue de Joyce Carol Oates, parce qu'il fallait le raccourcir, parce qu'il fallait aller un peu plus rapidement au but. J'avais très peur d'aller vers une caricature terrifiante. Et puis, du coup, je me suis plongé dans des textes de l'époque, des textes anticommunistes de l'époque, des bandes dessinées anticommunistes des années 50, où on lâchait les Noirs, et vraiment, les communistes étaient foutus en tôle. Enfin, et là, vraiment, le discours que je lui ai fait lire est presque mesuré comparé à ce que j'ai pu lire. Ce qui donne aussi la mesure de l'oppression et de cette espèce d'envers du rêve américain, quoi. Enfin.
We thought we were untouchable, invisible, invincible.
What do you think you're doing?
But we were wrong.
Voilà, Foxfire, confession d'un gang de filles, c'est sorti la semaine dernière. À noter donc que c'est adapté d'un roman de Joyce Carol Oates, il en a parlé, Laurent Cantet, et que ça avait déjà été adapté à l'écran, c'était en 96, mais ça avait été transposé en fait. Donc l'histoire se passe dans les années 50, ça avait été transposé à notre époque. À noter que le film Foxfire de 96 était avec Angelina Jolie, et de la vie d'une personne qui l'a vu, c'est pas très marquant. Alors que celui-ci, eh bien, je vous le conseille. Alors on continue avec Laurent Cantet, on en profite, hein, et on va parler donc des adaptations, parce qu'il a commencé par faire des films où le scénario était original, et puis ensuite, eh bien, il a fait des adaptations, il nous en parle.
J'ai fait effectivement 3 adaptations de suite. Je pense qu'à chaque fois, ça a été vraiment des rencontres, une rencontre littéraire, enfin une rencontre de lecture, comme ça, avec un bouquin qui m'a soit donné un outil pour nourrir une histoire que j'étais en train d'écrire. C'était le cas de D'Entre les Murs, où j'avais commencé à écrire une histoire se déroulant dans une école comme ça, et que le livre de François Bégodeau m'a amené comme ça une matière qui venait donner la chair du film. Vers le sud, moi j'étais allé à Haïti, j'avais éprouvé un choc très très fort face au pays, face à la misère que j'avais pu y voir, mais aussi à la richesse de la culture et tout ça. Et puis j'avais éprouvé aussi un sentiment très étrange d'être là en observateur, presque en touriste, alors qu'il n'y avait pas grand-chose à... qu'être touriste dans un pays comme ça est assez inadmissible. Et le livre de Dany Laferrière est venu comme ça répondre à un certain nombre de questions et m'a renvoyé à des sentiments que j'avais pu éprouver. Et voilà, donc j'ai là aussi utilisé un certain nombre de ces nouvelles pour nourrir une idée que j'avais au départ. Là, c'est vrai que on n'est plus directement dans une adaptation classique. Parce que je crois que le livre avait, comme ça, a répondu à des choses que j'ai l'habitude de regarder, c'est-à-dire le groupe, comment on trouve sa place dans un groupe, l'utopie face à la violence environnante, la formation comme ça d'une conscience politique. Toutes ces questions, je les traite habituellement aussi dans mes films. Là, d'un seul coup, j'ai trouvé dans ce texte une espèce de condensé de toutes ces préoccupations-là. Donc j'ai eu envie, je me suis dit... et puis, il y avait l'idée aussi de filmer les années 50, qui faisait que cette distance-là m'autorisait moins J'avais plus de mal à m'approprier la période, et que le livre m'a beaucoup aidé en cela. Quoi.
Voilà, c'est toujours Laurent Cantet. On se souvient donc de sa Palme d'Or avec Entre les Murs, une Palme d'Or qu'il avait obtenue donc avec des comédiens non professionnels. Eh bien, il refait le coup avec Foxfire. Tous les comédiens que l'on voit sont des comédiens amateurs. Alors, certains faisaient des ateliers théâtre et ainsi de suite, mais il n'y a qu'une seule une seule actrice qui est professionnelle. Et donc, eh bien, je lui ai demandé des nouvelles des acteurs de Entre les Murs.
Bien, 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 bien. Hé. Oh. On se calme maintenant.
Il fallait que je... Kumba.
Fus.
Fus.
Eh oui. Mais vous croyez vraiment je vais aller voir ma mère, je dirais fallu que je sois Fus.
Oui, donc ce qui me plaisait chez les acteurs d'Entre les Murs, c'est que malgré tout le plaisir qu'ils ont pu prendre à jouer, malgré le succès que ça a été, malgré le Cannes et le moment où ils auraient pu tous... péter les plombs et se mettre à y croire et à se voir acteur. Ils ont passé un bon moment, on a vécu quelque chose de très fort, mais aucun n'en a fait un point de mire, quoi, une fixation. Certains ont eu envie de recommencer, bon, c'est le cas de Louise Grimbert qui joue un rôle important dans 17 filles, même presque le rôle principal. Frank Keita qui jouait Suleiman, donc le dur de la classe, a eu un rôle assez important dans Mon père et femme de ménage. Il y en a 4 ou 5 comme ça qui ont eu envie de renouveler l'expérience, mais sans non plus en fantasmer trop le succès ou les choses. Donc ça m'a aussi été ça m'a fait assez plaisir de réaliser qu'on avait réussi à vivre cette histoire sans non plus trop entretenir d'illusions et créer comme ça des rêves. Bon, peut-être sérieux, oui, faut pas non plus, mais voilà, oui.
La République, le livre La République.
La République de Platon.
Ouais.
Mais alors, quel genre de questions il pose? Sur quel sujet?
Surtout, sur l'amour, sur la religion, sur Dieu, sur les gens, surtout.
Mais c'est très bien que t'aies lu ça.
Ouais, je sais. C'est pas un livre de pétasse, hein.
Voilà, un extrait de la filmographie excellente de Laurent Cantet, et un type tout à fait modeste. Vous avez pu vous en rendre compte. On parle très très vite de Pamela Rose de
Pamela Rose. La suite, donc, qui a retué Pamela Rose? J'ai pas grand chose à en dire en fait.
Ça tombe bien parce qu'on n'a pas trop le temps.
Donc c'est entre le pastiche de série TV et le polar américain, qui a retué Pamela Rose. C'est une parodie plutôt marrante qui aligne donc des gags à la seconde sans véritable inspiration. Bon, cela dit, il y a dans cette recherche du gag nul, navrant, quelque chose qui finit à un moment par se dérégler et contaminer le spectateur. Et on se met parfois à rire. On se demande un peu pourquoi aussi. L'exemple du gag typique du film, c'est à un moment donné, Can Merad y rencontre la présidente et la présidente lui propose un scotch. Il dit oui, volontiers, et lui sort un rouleau de scotch. Tout le niveau du film.
Superbe.
Voilà. Ça peut faire rire un lendemain de 31, voilà, mais pas plus.
Ouais, non, mais c'est bien, peut-être bien pour la télé, mais après, pour rester gravé sur une pellicule de cinéma, c'est pas...
Non, il y a une apparition amusante de François Morel, voilà.
D'accord.
Cela dit.
Donc ça passe encore, ça? Oui.
Ça passe encore, je ne sais pas si ça a franc succès, parce que ça ne ressemble pas vraiment aux comédies françaises qu'on fait actuellement. Donc oui, ça passe au Gaumont Multiplex et au CGR.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
On continue très vite avec l'agenda, avec demain jeudi 10 janvier à 19h50, le portrait de Dorian Gray de Albert Lewin. C'est dans le cadre des représentations de l'importance d'être sérieux, pièce d'Oscar Wilde qui sera jouée du 15 au 26 janvier au 13 vent. Une avant-première au Gaumont Multiplex avec Amitié Sincère, c'est à 20h30 demain. C'est réalisé par Stéphane Archinard, François Prévost, Légoni. C'est avec Gérard Lanvin, Anna Girardot et Jean-Hugues Anglade. Et on aura dans les semaines qui viennent Gérard Lanvin et Anna Girardot au micro de Divergence. Le vendredi 11 à l'Utopia Notre-Dame-des-Landes, c'est un documentaire. Bon, ça se passe de commentaires. C'est une séance unique vendredi à 20h30 et c'est suivi d'un débat. Et le lundi 14 janvier à 13h50 au Diagonale, c'est Les Duellistes, film de Ridley Scott. Et puis toujours lundi 14, une avant-première encore au Gaumont Multiplex, Pas très normale activité, comédie de Maurice Barthélémy avec Norman Tavo et Stéphie Selma, c'est à 20h30. Et puis on termine avec le Ciné Campus, ce thème, Les miroirs de l'enfance, avec Fantastique Mr. Fox de Wes Anderson.
Je me sens en danger, c'est parce qu'on l'est.
Tu devrais mettre ta cagoule de bandit maintenant. Personnellement, j'en ai pas, mais j'ai transformé une chaussette de tennis.
On en jette ?
Ouais, carrément. Bon, où tu mettrais une queue de valeur si tu en faisais collection, si c'était ton hobby ?
Je la suspendrais au-dessus de la cheminée.
Ouais, bien vu. D'ailleurs, qu'est-ce que ça sent ? T'as déjà goûté les fameux sablés pommes muscat gingembre de Madame Bean ?
Waouh ! Comment allez-vous ?
Ils sont tous chauds.
Film plutôt tout public, en fait. Hein, oui. Film d'animation tout public. Non, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et Fantastique Mr. Fox donc, de Wes Anderson, ce sera en présence de Maïté Doliger, qui est la directrice du Festival international du film d'animation de Bayargues, et de Maryse Baute, qui est ingénieure d'études en audiovisuel et chargée de cours en histoire de cinéma d'animation à l'Université Paul-Valéry.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Cinérama est traditionnellement suivi par 24 notes secondes. Cette semaine, ce sera un spécial Bébel.
Bah, la semaine prochaine.
Voilà, c'est tout. La semaine prochaine et bon cinéma.
Cinérama. Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.